Le peuple de la mer. Deuxième partie, chapitre 5. La bourrasque est imminente. Depuis la tombée de la nuit, on la sent si proche que la tente mouille les échines et oppresse. La mer a crié et tiré de fond jusqu'au soir, plaintive et tressaillante, comme une femme qui va enfanter. Maintenant, dans un répit formidable, elle retient son souffle, mais se gonfle en vagues lisses qui marchent irrésistiblement jusqu'au rivage qu'elle bombarde. Les vents suspendus grandissent la menace. Tout est immobile et ployé de crainte. Les hommes sont là et ont de l'amertume dans la bouche. La terre semble morte, et l'océan seul vit et pousse ses masses, sans déferler, à l'assaut du bord. Au large, les barques roulent bas, dans le clapotement des voilures fouettées par les garcettes. Le gréement geint, les écoutes battent, le gouvernail gémit dans ses fers, et l'on entend se tordre les bois qui se disjoignent. Les barques sont déjà comme des épaves perdues dans la houle, où des hommes muets se cramponnent avec de la peur au ventre et de la foi au cœur. D'un instant à l'autre, le grain va tomber ainsi qu'un coup de faux. Le phare brille avec cette acuité que prennent les feux dans les soirs d'orage, car les colères du temps les troublent et ils font signe de toute la force de leur lumière. La gerbe de l'île-Dieu rase au sud la nuit sourde. Le four, la banche, le charpentier éclate dans l'estuaire. Il y a donc encore de la terre et des hommes dans ces ténèbres. Cela donne du cœur. Descendu de la tour où il veillait sous la lanterne, Semelin cherchait son matelot dans les chambres basses et l'appelait.
« Jean-Baptiste ! Jean-Baptiste !»
Mais le gars n'étant nulle part, il ouvrit la porte, fit trois pas sur l'îlot et répéta.
« Jean-Baptiste ! Jean-Baptiste !»
Son cri porta loin dans le silence. Il écouta. Un pas sembla sonner là-bas du côté du sémaphore. Puis, plus rien que le tonnerre d'une vague dans les roches. Le vieux rentra en grognant.
« Toujours la femelle !»
Mégot, qui se rendait au phare pour chercher sa femme, connut, à l'appel de Semelin, qu'elle avait rejoint Piron, par là, dans les ténèbres. Il ôta ses galoches et vint à la sourdine. Les chardons se froissaient bruyamment sous ses pas. Il profita du tumulte des vagues pour courir, chopant rudement sur les pierres invisibles. Il ne sentait ni le mal, ni le froid de la sueur évaporée de son front. Brusquement, un coup de vent passa, lourd et sifflant. Gault pensa qu'il devait être à l'abri de la côte est et gagna la falaise. Il ne distinguait pas le vide et ne savait où poser le pied. Soudain, croyant apercevoir deux ombres, il se jeta vers elles. Un caillou déboula pesamment, tomba dans l'eau, tandis que l'homme s'agrippait au roc pour ne pas le suivre. Au moment où il se redressait, une seconde rafale s'abattit sur l'île, si violente qu'il chancela et entendit siffler l'étai du mât. Déjà, la mer soulevée déferle, car son bruit de chaudière commence. Où sont-ils ? Gault est debout sur la crête de l'île, indécis, affolé. La grande lueur du phare tourne à 30 mètres au-dessus de lui, et il la suit des yeux pour fouiller la terre. Mais il ne voit plus que la mer, toute blanche et monstrueuse. D'instant en instant, le vent force. Des paquets d'embruns tombent sur l'homme. Le sol frémit. C'est la tempête, accourue du fond des solitudes, qui gonfle l'océan et l'emporte dans sa course dévastatrice au-delà des bornes des continents. Gault courbe l'échine et rampe vers le sémaphore. Deux formes qui passent en courant le bousculent. D'un bond, il est sur elle. Un cri perce le fracas de la nuit et une masse roule sur le sol. Les deux hommes se tiennent à la gorge. mais d'un coup d'épaule, Jean-Baptiste écarte la main de Go et, empoignant l'adversaire à bras-le-corps, le retourne et le cloue au sol, sous ses genoux et sous ses poings. Il pleut à torrents, il vente en furie. La Go desserre ses jupes pour ne pas être renversée et cherche à voir. Jean-Baptiste tient Go une seconde sous sa force, puis le lâche en lui criant aux oreilles « Maintenant, tu peux rentrer ta femme !» Elle se penche sur Go, qui demeure étendu. L'embrun rejaillit sur eux en cinglant. Piron gagne le phare en marchant de biais dans la bourrasque. Quand il y rentre, la porte se referme sur lui brutalement et la tour sonne au choc comme une caverne. Semelin paraît dans la cuisine, avec un visage solennel où dansent les lueurs de la lampe qui tremble. Il ne dit qu'un mot. « Le service !» Un peu honteux, Jean-Baptiste ne réplique pas et se change, tandis que le vieux monte à son poste, le dos bien droit et le pas ferme. Des secousses ébranlent la maison basse, le toit craque, des lames de vent pointent aux serrures et aux joints des portes, les murs suintent et coulent sur les planchers. Par moments, les paquets de mer qui franchissent l'îlot d'un seul jet claquent les tuiles et les fenêtres. Les lampes s'affaissent de peur, les cuivres tintent sous leurs vitrines et le phare oscille comme un roseau. Cela dura 36 heures, 2 nuits et 1 jour. Il semblait que la tempête se renouvelât au lieu de s'épuiser, et l'allure durable du fléau épouvantait. L'océan éprouvait sa force dévastatrice une dernière fois avant les apaisements printaniers où couve, dans ses flancs, la vie prodigue, et se propagent les bancs de gade aux surfaces tièdes. Semelin n'était pas sans inquiétude. Il avait déjà vu dans l'ancien phare les vitres éclater et le grand feu souffler comme une veilleuse. Il se tenait dans la chambre de veille, au pied de la lanterne qui vacillait sur sa cuve, en éclairant rouge au panneau du plafond. Sous lui, le plancher tanguait à 30 mètres du sol. Par 2 fois, Jean-Baptiste essaya de le faire descendre.
« On ne compte pas avec Dieu, jeune homme, » répondit-il.
La seconde nuit surtout fut interminable et sinistre, avec des bruits étranges qui traversaient le tumulte. Des forces mystérieuses semblaient déchaînées dans l'inconnu ténébreux. Il y avait peut-être plus que de la mer et du vent dehors, et la peur crispait un peu les entrailles des hommes. Vainement, Jean-Baptiste s'efforçait de penser à la gaude, mais les coups de mer lui sonnaient trop aux oreilles. Alors il se tournait vers le vieux pour solliciter une histoire. Mais Semelin égrenait méthodiquement son chapelet et, quand il se signait et baisait la croix, Jean-Baptiste se signait aussi d'un geste nerveux, puis revenait à la tempête. Elle se coupait maintenant d'accalmie, pendant lesquelles on entendait les glaces crépiter là-bas sous des chocs, comme si les pierres de l'îlot volaient contre le phare. « Ils vont nous défoncer !» fit Piron. Le vieux leva sa barbe vers la lumière. Jean-Baptiste gravit quelques marches. Des ombres fonçaient sur les vitres. À peine s'il reconnaissait des oiseaux précipités dans le rayon protecteur dont le crâne éclatait contre les glaces. La coupole de cuivre vibrait comme une tôle sous la ruée des bêtes culbutées par l'espoir sur le faux soleil. Les cervelles giclaient, du sang coulait, les ténèbres elles-mêmes paraissaient grouiller autour de la lanterne, la serrant, la culbutant, et quand, soudain, le fanal s'arrêta, les hommes sursautèrent d'inquiétude. Mais c'était le poids qui appelait, à bout de chute, et déjà Semelin le relevait. L'assaut criard des oiseaux devenait plus distinct dans les répits plus longs de la bourrasque. Le vent s'essoufflait, reprenait haleine, espaçait les lourdes rafales dont tremblait la tour de pierre, et Jean-Baptiste, consultant le baromètre, annonça « Il remonte un petit !» À 4 heures seulement, le phare cessa d'osciller. Le vent se cassa brusquement après quelques ressauts d'agonie, mais la mer continua de gronder autour de l'île. d'une fenêtre, Jean-Baptiste aperçut trois étoiles et les feux de l'estuaire, la Banche, le Grand Charpentier, Kerlédé, comme d'autres étoiles. Le froid se glissait sous les portes, le bruit de l'océan s'éloignait sous la tour. Et ce fut l'aube, si claire qu'elle étonna après cette nuit de tempête. L'est blanchit d'un coup, découvrant un ciel balayé jusqu'en ses profondeurs, où l'on sentait que le soleil allait bientôt éclater. La mer moutonnait toujours, à perte de vue, parce qu'une fois déchaîné, il lui faut du temps pour s'apaiser et rétablir l'équilibre de ses masses. Jean-Baptiste sortit sur l'îlot trempé et luisant d'eau. Les barriques où Semelin nourrissait des pommiers gisaient éventrées parmi les roches. Le carré de légumes, le forbe et le chardon bleu étaient fauchés sur la terre rase. Mais une plus grande surprise l'attendait à l'est. Du pied du phare jusqu'à la mer, une jonchée d'oiseaux matelassait le sol. Il n'en avait jamais tant vu, entassés les uns sur les autres, accrochés au littoral, aux tuiles des bâtiments et jusqu'aux garde-fous de la lanterne. Les pluviers mêlés aux bernaches faisaient des taches grises sur des fonds noirs. Amaigris par la migration, ils gisaient le crâne sanglant et beaucoup vivaient encore. Jean-Baptiste cria, non pas tant pour manifester sa joie que pour avertir le sémaphore dont il approchait, car il lui tardait de voir la Gaude, recluse depuis l'avant-dernier soir où il s'était colleté avec son bonhomme. L'aurore avait une fraîcheur, une gloire de renouveau qui lui fouettait le sang. Il gorgeait ses poumons d'air tonique, satisfait d'enfler son thorax, et malgré la nuit blanche, il éprouvait l'abondance de sa force musculaire dans le jeu de ses articulations. Mais, rien ne bougeant au sémaphore, il se mit à chanter à tue-tête en tournant le dos et ramassant un à un les oiseaux morts. Sont partis deux matelots pour l'amour d'une belle, avec leurs pipes et leurs sabots dessus les flots. Pour l'amour d'une belle, gai matelot, pour l'amour d'une belle s'en va sur les flots. Sa voix vendéenne, où les syllabes sonnent, dominait la mer. Il chantait comme un perdu dans une écharpe de soleil. Elle avait dit au premier, « Pour l'amour d'une belle, reviens, maître timonier, ou bien gabier. Pour l'amour d'une belle, gai matelot, pour l'amour d'une belle, s'en va sur les flots. » Elle avait dit au second, « Pour l'amour d'une belle, reviens, maître, à deux galons, ou bien patron. » À ce moment, un vol de mouettes blanches tournoya sur l'îlot jonché de cadavres en cisaillant le refrain de leur piaillerie. Pour l'amour d'une belle, gai matelot, pour l'amour d'une belle, s'en va sur les flots. Mais derrière lui, une voix presque mâle, la voix des femmes qui chantent avec leur gorge magnifique, reprit « Pour l'amour d'une belle, mais dans un grain tombe à l'eau, adieu le bateau. Pour l'amour d'une belle, mais dans un grain tombe à l'eau, adieu le bateau. » Jean-Baptiste la regarda qui venait sur la sente, toute rieuse. T'as le cœur gai à matin, petit gars? Parce que je t'espérais. Brigand! Et tout à coup elle se récria devant le champ de gibier. Jean-Baptiste en avait déjà trié de gros tas par espèce, mais tant gisait encore qu'on en écrasait sous le sabot malgré soi. Ils parlèrent de bernache et de pluvier en se mirant dans leurs yeux. La brise frétillait dans le cotillon de la Gaude. Jean-Baptiste riait en montrant les dents. Ils ramassèrent les bêtes ensemble. Les seins de la Gaude pesaient au caraco en le gonflant davantage quand elle se penchait vers le sol, sa large croupe élargie dans une ampleur bestiale. Les mains calleuses du gars cherchaient les mains rudes de la femme. Et c'étaient des attouchements coriaces, mais satisfaisants, tandis qu'ils se lutinaient en paroles. Des sloupes sortaient de l'herbaudière sur la mer apaisée au jusant. La vie coutumière reprenait. Les hommes retournaient en confiance à l'océan, après cette grande colère, où ils avaient sûrement tué des hommes. et les barques recommençaient la lutte, où leur bois crie et se démembre jour à jour. Semelin dégageait la galerie du phare. Jean-Baptiste et la Gaude descendaient à la plage, tout imprégnés de soleil. La mer se retirait, abandonnant des lianes vertes, des rouleaux de fucus roses, des laminaires gaufrés et des sèches flasques aux tentacules gluantes dont le ventre luisait comme un moulage de stuc. « V'là ton homme !» fit soudain Jean-Baptiste. La Gaude se retourna et aperçut, aux enfléchures de son mât, Gaud qui regardait. Elle haussa les épaules. « Tu sais qu'il achetait ton collier ?» Jean-Baptiste grogna. « Faut monter. Il nous ficherait donc point la paix ?»« Je t'ai promis pour ce soir, » dit-elle. Sur la falaise, elle chargea son tablier d'oiseaux et s'éloigna, tandis que Jean-Baptiste relançait à toute gorge, d'une voix qui portait mieux dans le calme, « Sont partis deux matelots pour l'amour d'une belle, avec leurs pipes et leurs sabots, dessus les flots. Pour l'amour d'une belle, gai matelot, pour l'amour d'une belle, s'en va sur les flots. » Sa voix vendéenne, où les syllabes sonnent, dominait la mer. Il chantait comme un perdu dans une écharpe de soleil. Elle avait dit au premier, « Carguet, lunier d'Artimon, pour l'amour d'une belle, quand taché dessus le pont, défunt le second. Pour l'amour d'une belle, gai matelot, pour l'amour d'une belle, s'en va sur les flots. Fut envoyé leur magot, pour l'amour d'une belle, avec leurs pipes et leurs sabots, à la Margot. Pour l'amour d'une belle, gai matelot, pour l'amour d'une belle, s'en va sur les flots. L'or prit son beau tablier, pour l'amour d'une belle, et Dré s'en alla marier, quand elle meunier. Pour l'amour d'une belle, gai matelot, pour l'amour d'une belle, s'en va sur les flots. » La Gaude et Jean-Baptiste s'étaient rejoints trois fois pendant les nuits, pour des joies hâtives. Gaude les guettait comme une proie, et leur dernier rendez-vous faillit être tragique. C'était au phare où Jean-Baptiste avait introduit la femme à l'insu de Semelin. Il se tenait dans la chambre de l'ingénieur, qui est à l'angle sud, quand on heurta à la porte à grands coups. Ils entendirent Semelin répondre du haut de la tour, tandis qu'ils se regardaient, le cœur battant. Alors la fille ouvrit doucement la fenêtre et s'évada dans l'obscurité, ses sabots à la main. Ce fut Semelin qui vint ouvrir. Gaud le bouscula, courut aux chambres et resta stupide en voyant Jean-Baptiste dormir sur son lit où il s'était jeté pour feindre le sommeil. Il disputa sa femme d'autant plus fort qu'il comprenait moins son absence. Elle riposta, leva le poing, et devant l'aplomb de cette gaillarde, il se sentit chétif et plia. Maintenant, il rusait, rôdait, fouinait, contournant l'îlot dans sa yole silencieuse ou l'enfermant sous son regard du haut du mât. De son côté, Semelin s'était reclus dans le mutisme avec dégoût, mais sa force morale et la crainte de la délation le faisaient respecter. Indifférente, la mer fleurissait comme un jardin aux chaleurs du printemps. Parfois encore, certains soirs orageux, des nuages compacts pesaient sur l'horizon en découvrant, par-dessus leurs crêtes d'or, le ciel profond d'azur. Mais ils ne bougeaient ni éclataient et fondaient à la fraîcheur de la nuit ou sous un rayon de lune. Jean-Baptiste se livrait à la pêche avec acharnement. L'après-midi, à l'ombre du phare, il remaillait des filets, cerclait des casiers ou amorçait des lignes. Il entendait partout, comme une traîne autour de l'île, en se dissimulant si bien parmi les roches qu'il mettait en défaut la vigilance de l'adversaire. À l'aide de la norvégienne, il allait aux champs de lianes des cessés mouiller ou relever les casiers qui sortent du ventre de la mer, alourdis d'ophiures et gras de gélatine vive, dans une bouffée de relents iodés. Et il rapportait les tourteaux poilus qui font le mort et les homards aux queues cinglantes. Toute cette agitation lui permettait de voir souvent la Gaude et de rire un brin avec elle. À l'embarquement, au retour, quand il courait la falaise ou tendait le filet, elle passait et s'arrêtait pour la causette. Impossible de se dérober davantage. L'océan les emprisonnait avec l'ennemi. Le soir, Go enfermait sa femme à double tour et Semelin, pour éviter une nouvelle scène, verrouillait la porte du phare. Go se rongeait, toussait, maigrissait. Une barbe inculte lui creusait les joues. Délaissé par sa femme, il portait des guenilles. Elle ne comprenait pas sa folie. Elle lui avait reproché sérieusement en le reprenant sur son sens pratique. « T'es bête, mon pauvre homme. Puisque t'es plus bon à rien, qui que ça peut te faire? Laisse-moi tranquille, et je te soignerai comme un enfant. » Go manqua l'étrangler sur cette parole. Il n'avait de répit qu'au congé de Jean-Baptiste. Alors, il sommeillait les trois quarts du temps, étalé au soleil, la casquette sur les yeux, car la paresse satisfaite est, pour lui, le comble du bonheur, et l'existence des riches inoccupés lui paraît enviable. Il ne pêchait même pas, la ligne le fatiguait. Mais il savait bien demander du poisson au sardinier qui passe à longer l'îlot dans les calmes d'été. Les chaleurs le retinrent chez lui. Il redoutait le soleil, que méprisait sa femme. Tête nue, gorge et bras nus, elle promenait glorieusement dehors sa peau brune qui accrochait la lumière. À peine si elle se vêtait, même d'un caracolibre et d'un cotillon court, sous lesquels gonflait son corps comme mûrit un fruit. Un matin, il était 11 heures, Jean-Baptiste la vit descendre à la plage du phare, une langue de sable dans une mâchoire de granit. Il se cacha parmi les roches et guetta pour la surprendre. Il y a déjà de l'ombre dans cette falaise parce que le soleil gagne le sud en s'élevant. La grève renvoie comme un métal une lumière qui brûle les yeux. Les varechs ternissent, craquent de sécheresse, et l'eau évaporée dépose du sel. Le silence est peuplé d'un fourmillement presque imperceptible, comme si la terre rissolait, et l'on s'aperçoit que l'océan fume lui-même au lointain blanchi de vapeur. La limpidité de la mer donne une impression de fraîcheur bienfaisante. Elle est immobile, et l'on suit la plongée du sol jusqu'à ses fonds. À peine si elle soulève par instant sa lisière, dans une ondulation qui fait grésiller le sable chaud. En un tour de main, la gaude a mis bas corsage et cotillon. Elle se frotte les reins une seconde avec sa grosse chemise de toile bise et l'enlève par-dessus sa tête. Elle est nue. Elle quitte ses sabots et s'élance brusquement dans le soleil. Le hâle coupe ses jambes, ses bras, sa gorge, rehaussant la blancheur de son corps par l'opposition des extrémités cuites. Jean-Baptiste la mange des yeux, halète. L'eau qui bruit quand elle y entre lui bourdonne aux oreilles. Il est fasciné par la croupe fastueuse sur des cuisses puissantes. La mer monte au ventre de la femme. Elle a un frisson, plonge ses bras qu'elle frictionne, avance. Dans l'eau, ses formes paraissent d'un blanc verdâtre, ondoyante et lumineuse. Le passage de la mer à la femme est insaisissable. L'onde se continue dans la chair qui s'étend à l'onde. Elle nage et s'allonge de son sillage, tandis que ses épaules, entre sa chevelure d'ébène et le cristal glauque, resplendissent comme un marbre. Jean-Baptiste est debout, l'œil injecté, à moitié fou, et entre ses mains, il appelle sourdement « Marie ! Marie !» Elle prend pied, émerge ruisselante, les seins tremblants, aperçoit le gars et sourit au moment où un sabot rase la tête de Jean-Baptiste et se brise contre le roc. Il se tourne pour recevoir le second en pleine mâchoire. Il chancelle, hurle, crache du sang et des dents. Go est déjà sur lui, le couteau à la main. Jean-Baptiste dégringole à la plage, mais Go lui pousse sur le dos une lourde pierre qu'il l'affaisse avec un han de gindre. Il s'est relevé et attend l'adversaire en démence qui grimace et trépigne devant lui. Il n'a que ses poings qu'il durcit à force de crispation. la poitrine le brûle et du sang dégouline chaudement de sa bouche sur le maillot. La gaude est demeurée stupide dans l'eau, tant l'attaque a été brusque. Les rivaux sont face à face, le masque tragique. Go brandit son couteau à gaines qui, lui, est disparaît dans les alternatives de lumière et d'ombre. Maigre, fuyant, il plie, se redresse, s'agite pour déconcerter Piron, campé de pied ferme, carré comme une tour. Go s'élance. Jean-Baptiste part le choc d'un coup de poing formidable qui se perd au-dessus de Go, subitement aplati. Déséquilibré par l'élan, il tente un coup de pied au moment où une douleur lui fend le ventre. Il y porte sa main qui rougit, crie et, fou de rage, se jette sur l'adversaire. Sans sabot, l'autre est léger sur le sable mouvant où Jean-Baptiste s'épuise à courir en se vidant comme un cheval de corrida. La gaude crie maintenant, toute nue au bord de la mer. Jean-Baptiste bute, tombe et déjà Go a bondi sur lui, larde son dos sauvagement, quand un dernier ressaut de sa victime le culbute à son tour. La gaude vient au blessé qui râle, le nez dans le sable. Mais son homme lui coupe la route, la face hagarde, écumant. D'une gifle qu'elle ne peut éviter, il lui claque le torse en rugissant.
« Chez nous ! Chez nous ! Sacré putain !»
Alors, elle escalade la côte, épouvantée, toujours nue, poursuivie par l'homme qui jure, menace, s'emportant les pieds aux cailloux, les jambes au chardon, galopant vers le phare dont elle ébranle la porte. Mais Semelin, qui a vu accourir la femelle impudique et folle, s'est barricadée.
« Le diable la tient »
pense-t-il. Et la gaude repart en plein soleil, par la côte ouest, les cheveux croulants de sa résille, tandis que Go, à bout de souffle, s'arrête et la chasse à coups de pierre comme une chienne en rute. Jean-Baptiste a expiré, à plat ventre sur la grève. Ses deux mains écartées ont fouillé convulsivement le sable dont elles étreignent une poignée. La plage est ravagée, tachée de noir, de sang déjà bu. La mer ondule joliment sur les coquillages qui bruissent. La chemise de la gaude est très blanche dans l'ombre qui gagne. Un lapin sort des roches et flaire, le nez palpitant. D'une fenêtre de la tour, Semelin entend hurler au sémaphore. Il ne sait pas où est Jean-Baptiste, mais grogne. « Oh, faut que tout ça finisse !» Et il monte jusqu'à la lanterne, envoyer le pavillon pour demander la chaloupe.